Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour, bienvenue dans Libre Débat, comme tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. La semaine dernière, on a écouté le documentaire « Leurs bras pour nos assiettes », premier volet d'une enquête radiophonique au long cours menée par Hélène Cervelle et Tiphaine Hermelin sur le système d'exploitation des travailleurs détachés dans l'industrie agroalimentaire locale. C'est un documentaire qui est le fruit d'une longue enquête de terrain tenace sur des années et qui s'attache à montrer les rouages bien rodés d'un système qui considère les travailleurs saisonniers comme des packs et les fait travailler dans des conditions effroyables et mortelles au profit de grandes entreprises multinationales. Malheureusement, depuis la semaine dernière, on a aussi appris la mort de 5 travailleurs et travailleuses saisonniers pendant les vendanges 2023, en Champagne. Des morts liées aux conditions de travail pénibles en pleine canicule, des morts passées sous silence. Alors on pense fort à leurs proches, on pense à tous les saisonniers agricoles qui sont en train de travailler là dans les champs, et on écoute Omerta Soussert, le deuxième volet de l'enquête de Hélène Cervelle et de Tiphaine Hermelin, qui raconte justement la longue lutte juridique avec le Code des traces aussi, pour faire toute la lumière sur la mort de Elio Maldonado, un jeune travailleur ouvrier équatorien de 32 ans, mort en juillet 2011. Pour en finir avec l'indifférence et le cynisme de ce qui se passe juste à côté de chez nous, dans la plaine de la Croix, entre Arles, Marseille et Avignon, pour approvisionner en légumes et en fruits le marché national, international.
Écran sonore.
Travailleurs détachés, les dessous d'une exploitation. Seconde partie, Omerta Soussert.
Cuando sufrió, estaba cogiendo melones. Y mi hermano empezó primero a marearse, luego empezó a convulsionar, luego empezó a devolver, a temblarse.
Quand il est tombé, il était en train de récolter des melons. Mon frère a commencé à avoir des vertiges. Il a commencé à convulser, à trembler, il a demandé de l'eau, il est tombé, il s'est relevé, il a continué à travailler, puis il s'est évanoui. Ses collègues ont dit « Donnez-lui de l'eau, sinon il va mourir ». Mais le responsable leur a dit de continuer à travailler. Ils l'ont laissé là au moins 3 heures sur le sol. Mon frère était un jeune homme de 33 ans, plein de vie et sans aucune maladie. Le médecin nous a dit que c'était un coup de chaleur, rien d'autre. Il nous a même dit que s'il avait été amené directement à l'hôpital au moment de l'accident, il aurait probablement été sauvé. Mais ils l'ont laissé pendant un long moment évanoui, allongé sur le sol, et ils l'ont laissé là pendant des heures. Les autres personnes qui travaillaient dans cette entreprise connaissaient déjà la réputation de cet employeur. Il était connu pour ça. Parce que la seule chose qu'il voulait, c'était qu'il travaille, qu'il ne s'arrête pas de travailler et qu'il ne perde pas de temps à boire de l'eau. Parce que pour lui, boire de l'eau, c'était une perte de temps. Quand mon frère est mort, le propriétaire de l'exploitation s'est présenté. Il nous a dit que ça n'était pas sa faute, que c'était un accident. Et je ne sais plus si c'était 10 000 ou 15 000 euros. Je ne me souviens plus du montant exact, mais cet homme nous a proposé de l'argent pour qu'on ne porte pas plainte. Le soir, ils ont emmené tous ses collègues dans d'autres endroits très éloignés pour les empêcher de déclarer quoi que ce soit quand la police viendrait.
tant que syndicat, on s'interroge sur la réelle volonté de lutter contre ce système exploiteur.
Mathias Godel, inspecteur du travail. Il s'exprime au nom de son syndicat, Sud Solidaire.
Est-ce que les ministres de l'Agriculture ou du Travail se sont déplacés après la mort d'un travailleur, quelques jours après être parti déshydraté d'une exploitation agricole ? De la même manière, est-ce que le procureur s'est déplacé sur l'exploitation agricole pour qualifier l'exploitant ou l'entreprise de travail temporaire de voyou, comme il aurait pu le faire dans d'autres cas ? Est-ce que la DGT, la Direction Générale du Travail, notre direction à nous, elle a fait un communiqué de presse pour dire qu'aujourd'hui c'était inadmissible et qu'on allait mettre des moyens de lutte contre ça ? Et bien en fait, trois fois non. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait.
Quand je suis venue ici, j'ai connu son histoire. Mais son histoire, il a fini avec son décès. Mais il y a beaucoup de cas d'accidents de travail qui se sont silenciés parce que ça s'arrête là. La personne continue à vivre, voilà, même si elle manque en main ou s'il y a des problèmes de santé pour toute sa vie, s'il n'y a aucune pension, si, peu importe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça fait pas longtemps qu'on a connu les cas d'une dame en Aix-en-Provence. Bon, cette dame, elle était de Honduras. Et la personne en charge l'a dit d'aller nettoyer une machine. Et cette machine l'a pris les bras. Et l'entreprise ici a l'obligation de déclarer l'accident de travail. Mais elle l'a pas fait. C'était Terra Fecundis qui l'a fait en Espagne. Et après, la dame, elle s'est retrouvée toute seule à l'hôpital avec son mari, sans parler français, sans aucune aide. En fait, elle a dû rentrer en Espagne. Et voilà, là-bas, c'est gratuit, la sécurité sociale, vas-y. Et son mari, elle a décidé de continuer à travailler parce qu'elle a besoin de l'argent avec la même entreprise. Et pour voir si peut-être, éventuellement, elle peut porter une plainte contre cette entreprise. Mais l'entreprise a décidé de faire la loi de glace, ne pas lui parler. Personne n'a le droit de parler avec cet homme. Et les travailleurs lui ont dit, non, je ne peux pas parler avec toi parce que sinon je vais me faire virer. On n'a pas le droit de parler avec toi. Et personne ne veut donner son témoignage de ce qui s'est passé. Il n'a pas réussi à continuer et il a rentré en Espagne. Mais je sais pas que c'est pas connu pour tout le monde. Personne sait, je pense.
En réalité, les sociétés d'exploitation agricole sont parfaitement, presque complices dans ce fonctionnement-là. Pourquoi ? Parce que ça les intéresse d'avoir de la main-d'œuvre disponible, silencieuse, qui accepte de faire des heures considérables qui, derrière, ne seront pas payées et dont on sait qu'en cas de difficulté, elles ne se plaindront pas. Et si vraiment elles parlent, dans ce cas-là, il y a un retour au pays qui est assez immédiat.
La mort d'Elio Maldonado a été un signal d'alarme sur les activités de Terra Fecundis. Depuis, d'autres travailleurs ont perdu la vie en saison sans que ça ne fasse les gros titres. Rien qu'à l'été 2022, un travailleur marocain est retrouvé mort dans une chambre froide. Un autre est tombé dans le coma après avoir été laissé inconscient pendant plusieurs heures au soleil dans un champ de melon. Les conditions de travail qui mènent régulièrement à des accidents sont connues de la justice. Ces dernières années, de rares procès ont été intentés au prud'homme par des travailleurs et des travailleuses, notamment contre Laboraltera ou Safor Temporis, d'autres entreprises d'intérim espagnoles. Interrogée sur les conditions et l'intensité des journées de travail de ses salariés, Terra Fecundis répond que, je cite, « une société d'intérim n'a nul pouvoir d'agir à cet égard auprès de l'entreprise utilisatrice, autrement qu'en l'invitant à respecter la législation du travail du pays ». Fin de citation. L'entreprise s'étonne aussi, je cite, d'entendre ou de lire que le personnel intérimaire détaché serait insatisfait des conditions de travail, alors que nombre d'entre eux postulent et renouvellent leur demande de mission depuis des années auprès de notre société. Fin de citation. Concernant le nombre d'heures de travail très important réalisées par les salariés, Terra Fecundis déclare enfin, je cite, « ne pas avoir connaissance de ces faits ». 8 ans après sa mort, la famille d'Elio Maldonado a quand même eu droit à un procès. Fait très rare, qui reste lié au fait que Terra Fecundis est dans le collimateur de la justice. Pourtant, dans ce procès, les conditions dans lesquelles il travaillait quand il est tombé n'ont été que très peu prises en compte par la justice, et la procédure s'est d'ailleurs soldée par une relaxe de l'agriculteur. De la même manière, pendant le procès de Terra Fecundis qui a eu lieu en mai 2021 à Marseille, les conditions de logement et de travail n'ont été citées que comme éléments de contexte, malgré les moyens d'enquête sans précédent mis en place par la justice. Pendant 30 longues et éprouvantes minutes, le président du tribunal projette les photos de lieux d'hébergement insalubres. Dans la salle, le silence est à couper au couteau, mais personne ne revient dessus. C'est la fraude au détachement qui est au cœur des débats, et la condamnation est lourde. 500 000 euros d'amende, interdiction d'exercer, et des peines de prison avec sursis pour les dirigeantes et dirigeants. Tout ça sous le regard des fresques qui ornent la salle d'honneur du tribunal de commerce, où on peut lire « À la gloire de Marseille, métropole coloniale et centre du commerce rural ».
Je pense que y a des gens qui ont gagné de l'argent, je pense à bon débat. Après, ça dépasse, comme je te dis, ça nous dépasse. Il y a trop d'argent en jeu, donc du coup, derrière, les procès, tout ça, ça devient banal. Hein. Voilà, c'est comme ça, on dit, ça devait arriver, quoi. Tout ce qui est arrivé, ce qui devait arriver, arriva, mais en tout cas, ça ne pourra jamais s'arrêter. Heureusement.
Donc il n'y a que les grosses exploitations qui peuvent se permettre ça, en tout cas une bonne partie des grosses exploitations, parce qu'elles ont les reins solides, parce qu'elles ont des avocats et parce qu'elles vont pouvoir derrière se défendre. Parce que je ne pense pas que le petit agriculteur, il a 5 personnes fournies par une entreprise de travail temporaire espagnole. Voilà, ce n'est pas le cas. Après, le problème de tous ces dossiers, c'est de remonter aux donneurs d'ordre, parce qu'on est sur des dilutions des responsabilités. Le fait de rechercher ces responsabilités prend énormément de temps.
Donc pour moi, ce qui est une anomalie, disons, de façon globale sur l'ensemble de ces procédures, c'est effectivement le temps de l'enquête. Parce qu'on a des freins. L'Espagne, très clairement, voit d'un très bon œil d'avoir une société qui réalise un chiffre d'affaires très important. Ce chiffre d'affaires va lui profiter en Espagne, alors qu'en réalité, toute l'activité a lieu en France. De la même façon, l'inspection du travail a eu le plus grand mal à obtenir des informations et des renseignements sur l'activité de Terra Fecundis. Terra Fecundis a choisi, en fait, la confrontation. Cette méthode de défense, elle a fonctionné pendant un certain temps, parce que quand on s'oppose à tout de façon aussi radicale, on gagne un certain nombre d'années. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a eu une méthode à la fois de pression à l'égard des entreprises agricoles françaises en leur disant « on vous ment, on vous explique que la réglementation européenne n'est pas applicable alors que nous on sait qu'elle l'est » et les autorités de police dans leur méthode d'enquête sont à la solde du gouvernement français. Il y a des PV, c'est donc la position officielle de Terra Fecundis. Je cite à ce dernier gars, « Vous ne pouvez non plus ignorer les pressions que les autorités policières, dans le cadre de l'enquête menée par M. le procureur de la République, exercent à l'endroit des personnes auditionnées ou entendues, simples salariés ou ouvriers agricoles en état de vulnérabilité, soumis à l'autorité des enquêteurs, pour ne pas dire soumis à leur pouvoir, fortement affirmé dans le dessein de les conduire à donner les réponses souhaitées ou même dictées, sous la menace de ne plus pouvoir travailler sur le territoire français. » Voilà la manière dont fonctionnait Terra Fecundis, un système en réalité.
Donc aujourd'hui, il y a eu des procès assez retentissants. On aurait pu espérer que ça serve d'exemple à tout le monde, à la filière complète, à nouveau, à ce système d'exploitation des travailleurs, pour qu'il cesse. Et ça n'a pas été le cas. En tout cas, nous, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. L'inspection du travail, elle ne constate pas qu'il y a une baisse de l'exploitation des travailleurs et travailleurs saisonniers, parce que ça reste quelque chose de très rentable. Pour en sortir, il faudrait que, justement, ça fasse tellement de bruit, et surtout que chaque exploitant se dise « Oula, si je recours à une société de travail temporaire qui me propose des salariés à des prix qui sont manifestement incompatibles avec un salaire décent, puisque toute exploitation agricole, elle sait à peu près combien coûte un salarié, et quand elle voit les prix qu'on lui propose, elle sait elle est consciente de recourir, on appelle ça le recours sciemment, mais elle est consciente de recourir sciemment à de l'exploitation de travailleurs et travailleuses. Et tant qu'il y aura du profit à faire, il y aura des exploiteurs et il y aura des exploiteuses.
Ce qui, évidemment, est difficilement compréhensible, c'est qu'est-ce qui fait que cette société a réussi à imposer un modèle qui est devenu ce que les juges plus tard, et notamment le juge de Marseille, en juillet 2021, dans cette décision si importante qui a condamné Terra Fécondis, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à imposer ce qu'il a appelé un business model, c'est-à-dire qu'on a finalement eu une société qui, parce qu'on l'a laissé faire pendant un certain nombre d'années, est devenue en presque position dominante de marché et a réalisé un dumping social massif qui fait que plus personne d'autre ne pouvait être en compétition. Et il aura fallu au moins une dizaine d'années pour qu'on ait véritablement des juges qui se penchent sur la réalité de ce modèle économique imposé par une société dans une grande ampleur, quoi. Ce qui fait que les choses se sont installées. Et bien finalement, il y a des habitudes qui ont été prises. On n'a pas besoin de savoir trop comment ça se passe dans le détail parce que finalement ça rentre dans le cadre de manière apparente dans le cadre de la réglementation européenne, et ça concerne des personnes qu'on ne voit pas parce que, dans le fond, tout est organisé pour qu'elles restent invisibles. Et il faut, voilà, un cas comme celui de M. Maldonado pour que tout d'un coup les gens se réveillent et crient au scandale.
Est-ce que tu as l'impression que justement ça a changé des trucs, ce procès dans la...
Ouais, ça a changé qu'ils prennent plus tard à Fécondis, il y en a plein d'autres. Il y en a pas des milliers, mais il y en a plein. Il y a toujours des solutions alternatives. Tu dis, ils s'en créent des sociétés espagnoles tous les jours. Il y en a plein qui viennent chez toi et qui te disent, oh, moi j'ai une société, machin. C'est infini, quoi, tu vois. Tous ces Équatoriens, maintenant. Ils habitent à Beaucaire et autre part, ils sont là, il y en a des centaines, des milliers. Et donc du coup, ben, eux, ils veulent travailler, donc derrière, ben, ils se créent des sociétés tous les jours, pour gagner vite de l'argent. Donc du coup, après, nous, on en a besoin. Mais après, voilà, je pense que ce qui s'est passé avec Terra Fécondis, ça se passera encore et encore, hein, malheureusement.
Bien, ¿y tú? ¿Bien? ¿Sí? Voilà. Beaucaire. C'est ça. Tu vois, tu peux le voir dans la roue. Par tous les roues, il y a un latino. Tu vois, partout. On est partout. On entend aussi des musiques de temps en temps, des salsa par ici, des cumbia par là, des bachata, c'est pas...
Dès le début, cette enquête nous emmène à Beaucaire, au bord du Rhône. Dans le petit centre-ville, on entend de l'espagnol, du darija marocain et du français mélangé. Tout ça au milieu d'hôtels particuliers un peu décrépits et tapissés d'affiches du Rassemblement National. Le week-end, tous les latino-américains se retrouvent à la cancha, le tournoi de volley dominical, sport national en Équateur. Des odeurs de cuisine s'échappent des gargotes en parpaing montées à la va-vite autour des terrains. C'est là qu'on vient passer un moment, regarder les matchs et s'échanger des plans boulot. Malgré la présence importante de ces travailleurs et travailleuses dans la ville, très peu de choses s'organisent sur place. Le CODETRAS, le collectif de défense des travailleurs et travailleuses saisonniers étrangers dans l'agriculture, qui existe depuis 20 ans, fait de la veille, informe et épaule les salariés lors des procès. Depuis 2021, une permanence juridique d'accès aux droits a été montée par des équatoriennes et des équatoriens et des personnes solidaires à Beaucaire. Pas facile de s'organiser avec une mairie aux couleurs du parti d'extrême droite depuis déjà deux mandats. Autant dire que les étrangers et étrangères n'y sont pas vraiment les bienvenus, même avec un maire qui s'appelle Julien Sanchez.
Beaucaire, c'est plus riche grâce à nous et ça, personne ne le voit. Parce que qui veut loyer ces loyers pourris de merde? Quel est latino? Et tu gagnes 400 euros sans faire aucun travaux là-bas. Et comment ça se fait qu'à Beaucaire, il y a 10 ou plus commerces, un Carrefour, un McDonald's, un Lidl, comme un Granville, tu vois? C'est pour qui? Qui va acheter là-bas? C'est nous. Et ça fait 3 mois ou peut-être plus que Intermarché, il a un rayon complet des produits latinos.
Sur les vitrines des tiendas aussi, il y a beaucoup de petites annonces de travail ou de covoiturage pour aller en Espagne.
Oui,
et tout ça.
Oui, tu peux trouver ça aussi. Ouais. Mais surtout, les gens, ils utilisent des groupes de WhatsApp. Et c'est comme ça que les gens s'informent et aussi c'est bon. Ça, c'est notre... c'est le locutorio. C'est où cet homme, il aide à faire la déclaration à Pôle emploi ou envoyer des documents online. Ouais. Il fait tout ça. Et on peut passer par là. Non, par ici, si tu veux.
Là, on est en train d'aller à la poste. Pourquoi c'est important comme endroit?
Bon, c'est important parce que c'est un lieu de rencontre. À partir des 5 heures du matin, il y a beaucoup de gens qui attendent là-bas. Je me rappelle que mon père, ça fait un moment déjà, mais il est venu le matin ici pour attendre parce qu'il avait du mal à trouver un travail. Il dit, bon, je passe à la poste. Je peux pas dormir non plus, alors j'y vais et je vais voir si je rencontre quelqu'un. Mais en fait, c'est ici la poste, mais c'est ouais, tout, c'est le parking. Ouais. On appelle ça la poste. Cette bille s'enregistre grâce à nous aussi. Personne ne voit ça.
Comme Lucia, les gens qui s'installent dans la région ont des papiers européens. Ils ont compris le système Terra Fecundis et préfèrent essayer de se faire embaucher en direct avec des contrats français. Pendant ce temps-là, les agences d'intérim espagnoles continuent à fournir des travailleurs et travailleuses à flux tendu, dans les mêmes conditions de vie et de travail déplorables. Elles permettent à l'agriculture intensive de continuer à fonctionner à plein régime en inondant le marché avec de la main-d'œuvre à bas prix.
Du coup, nous, on a essayé de jouer le jeu, on essaye de prendre des contrats français pour la main-d'œuvre quand même. Parce que tous les mecs qu'on a, nous, toutes les femmes et tout, c'est des gens qui ont travaillé déjà chez Terra Fecundis, tu vois.
C'est quand même des personnes étrangères, la plupart d'entre eux.
Ben, ils ont une carte d'identité espagnole, ils sont cotoriens, mais ils ont une carte d'identité espagnole. Donc ils ont un contrat français, quoi. C'est plus intéressant pour eux. Déjà, le taux horaire est mieux rémunéré, ils ont les heures supplémentaires. Ouais. Et ouais, rien que ça, déjà. Voilà.
Là, c'est quand même une serre qui est énorme, en fait. C'est une
multi-chapelle qui fait 1 hectare. Qui est haute, très haute, du coup, qui nous aide pour le climat et tout, mais cette année, vraiment, c'est vraiment particulier, même dans des terres comme ça, on a vraiment, vraiment chaud, quoi. Ouais. Tu vois, donc, c'est surtout sec, c'est très, très sec. Donc, du coup, les prix sont pas là comme l'année dernière, quoi. Voilà, donc, du coup, ça nous incite à aller vers les travailleurs détachés, quoi, parce que, du coup, c'est pas négligeable l'argent qu'on peut économiser. Quand ça marche, tu vois, quand on a un bon prix et tout, bon, mais du coup, ben, on joue le jeu, tu vois. Mais là, maintenant qu'on vend de moins en moins cher, ben, du coup, le manque à gagner, ben, il faut le trouver quelque part. Hein. Le système nous amène à peut-être faire comme tous les autres, hein, voilà. Employer des travailleurs détachés, et c'est ça le problème. Faire comme tous nos collègues et gagner de l'argent sur les employés, on va être obligé. On va être obligé, malheureusement. C'est la triste réalité. Voilà.
Pourquoi les exploitants agricoles, qui subissent eux aussi ce système en ne pouvant clairement pas, aucun moyen de faire les mêmes prix que ceux qui exploitent des travailleurs, puisque là on est peut-être à la moitié du coût des coûts salariaux normaux, enfin légaux. Comment ces exploitations agricoles elles peuvent lutter contre ça? Bah, elles peuvent pas, clairement. Donc elles devraient nous alerter, et elles le font pas. Pour nous, ça, c'est une interrogation. Est-ce que c'est des représailles possibles? Est-ce que c'est une omerta? Ou est-ce que même elles sont prises dans leur système? C'est-à-dire, est-ce qu'elles se disent, mais moi, peut-être qu'un jour, je vais employer ça. Si j'ai crié contre ce système d'exploitation des travailleurs, bah, je ne peux pas derrière l'utiliser.
Il y a une chape de plomb énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des méchants agriculteurs qui exploitent de la main-d'œuvre sans connivence des pouvoirs publics. Il y a, tout le monde connaît cette situation et rien ne bouge, en fait. Je comprends pas comment c'est possible que ce soit à ce point-là devenu un territoire de non-droit.
Ça interroge, oui, sur le fonctionnement de l'administration de la justice, et c'est difficile de ne pas faire le lien ensuite avec le fait qu'on est sur un terrain sensible d'exploitants agricoles qui ont, dans cette région-là, un pouvoir important et qui se sentent eux-mêmes comme étant un peu au-dessus des lois.
Dans le système d'exploitation d'aujourd'hui, il y a des moyens de lutter, et normalement, il y a un des moyens qui est la justice. Sauf que la justice elle-même, elle est soumise à des contraintes. Notamment, la première contrainte, c'est que les parquets ne sont pas indépendants. En France, il y a des juges d'instruction indépendants, mais les parquets eux-mêmes ne sont pas indépendants. Ils répondent au pouvoir politique. Donc si le ministre il décide que la priorité, c'est pas de s'occuper des travailleurs détachés exploités, eh ben, on ne s'occupera pas des travailleurs détachés exploités, ou très peu à la marge. Et en l'occurrence, là, quand il y a un mort sur une exploitation, peut-être que là, on s'en occupe. Donc aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut bousculer le système complètement. Et ce qui nous amène aussi à la question de pourquoi ce système il se reproduit, c'est parce qu'en fait, tout simplement, le système il profite à des gens. Et tant qu'il profitera à des gens qui ont le pouvoir ou qui sont capables d'activer des leviers de pouvoir, que ce soit des leviers de pouvoir politiques locaux ou nationaux, eh bien, on aura une exploitation des travailleurs et des travailleuses détachées.
Les exploitants sont à l'image de la société, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des employeurs courtois et normaux, et puis on peut avoir à l'inverse des situations dans lesquelles on a pu rencontrer jusqu'à de l'agression physique. On peut être dans des situations isolées, le portable ne passe pas forcément, donc on prévient d'abord toujours où on va. Ensuite, généralement, on est toujours en présence de la gendarmerie. Une collègue de l'unité de contrôle travail illégal régionale a été menacée avec un sécateur électrique. C'est heureusement le policier qui s'est interposé entre elle et l'agriculteur qui menaçait de lui enfoncer son sécateur électrique dans le ventre. Dans un repérage qu'on avait fait à Vauvert avec une collègue inspectrice, on s'était positionné avec le véhicule en limite d'un champ, et il y a un exploitant qui est arrivé et qui a commencé à vouloir nous demander qui on était, de descendre du véhicule. Donc on a fait demi-tour et il nous a coursé avec son 4x4. Quoi. Donc voilà, on n'était pas trop loin de Saint-Gilles, de Vauvert pardon, et de la gendarmerie. Mais dans ce cas-là, on se rapatrie le plus vite possible vers la gendarmerie.
Pourquoi, à ton avis, c'est si compliqué de... Enfin, pourquoi il y a un tel silence, en fait, sur toutes ces questions-là?
Parce que, comme je te dis, ça arrive beaucoup de gens. Et voilà, on est obligé de... Tous les gens qu'il fallait qu'ils trouvent leur business, ils l'ont trouvé dans ça. Maintenant, c'est compliqué d'en parler. Voilà, parce que je te dis, il y a trop de risques.
Dans des supermarchés en France et à l'étranger, difficile de ne pas ausculter les cagettes de fruits et légumes. Quasi systématiquement, les noms des entreprises agricoles qui ont recours aux services de Terra Fecundis et des autres agences d'intérim espagnoles figurent sur les étiquettes. Même celles qui sont sur le banc des accusés. Comment continuer à consommer ces produits quand on sait ? Les fruits de cette exploitation sont dans les assiettes de toute l'Europe et tout est fait pour qu'on n'en parle pas. Sur la question, le silence des élus locaux, nationaux et européens est assourdissant. Même chose du côté des syndicats, où seuls quelques membres de la CFDT locale se saisissent de la question. Sur place, seules quelques trop rares personnes, voisins, paysannes, militantes, continuent à documenter et à dénoncer la situation, sans relâche, parfois depuis des années. C'est leur travail qui a rendu cette enquête possible. Terra Fecundis a été condamnée en première instance pour infraction de travail dissimulé, dissimulation de salariés et marchandage de main-d'œuvre, le tout en bande organisée. L'entreprise a immédiatement fait appel. Mais tant que le jugement définitif n'est pas prononcé, elle a le droit de continuer à exercer. Tout le monde s'accorde à dire que l'affaire va remonter jusqu'aux plus hautes juridictions européennes, ce qui risque de prendre encore une bonne dizaine d'années. En attendant, Terra Fecundis continue de fonctionner sous le nom de Work for All, ou plus récemment de TALMS, ou encore TPA, Tous pour l'agriculture.
Je crois que la stratégie qui est celle de l'entreprise, c'est de ne plus faire référence avec une connotation telle qu'on peut la trouver sur les sites internet aujourd'hui, où Terra Fecundis va immédiatement être associée à jugement, Marseille, poursuite, travail dissimulé. Donc Work for All, c'était du tout neuf l'an dernier, et même le tout neuf se transforme en tout neuf avec d'autres enseignes commerciales, mais toujours bien sûr le même numéro Siret. Le constat qu'on fait, c'est celui que le cadre du détachement est toujours celui qui est utilisé.
Comment on aide les exploitants agricoles aujourd'hui à en fait payer décemment les travailleurs et les travailleuses? Donc en fait, aujourd'hui, comment on fait ça? Comment on fait pour que les employés de ces filières-là soient respectés, soient payés correctement et des conditions de travail correctes sans que demain le prix des pommes soit à 8 euros le kilo dans les magasins? Maintenant, c'est à la politique d'agir. Parce qu'aujourd'hui, oui, le système, il existe, mais il existe dans un environnement global contraint par des prix, par la politique agricole commune. On pourrait très bien dire que la politique agricole commune, elle s'applique en fonction de critères sociaux. Je veux dire, il n'y a pas de critères sociaux aujourd'hui, il n'y en a pas aucun. Voilà, on est sur du rendement, du pur rendement. Et bien, pour faire du rendement, on va exploiter des gens.
Mais la base de la base, il ne fallait pas le faire. Hein. Tu comprends? Il ne fallait pas le donner. Hein. C'est comme si on te donne ça, et après, quand tu prends ça, ouais, mais comme, il ne fallait pas le donner. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Il fallait réfléchir avant. Et avant, c'est l'Europe, c'est l'État, c'est... Tu vois, c'est ça que moi, je trouve un peu injuste, parce que... Mais c'est le système global, tu vois, de tout. Et après, on tape sur des gens qui en ont profité. Oui, après, ils n'avaient pas à profiter. Il faut faire les choses comme il faut. Mais le problème de l'humain, c'est que l'humain, eh ben, quand tu donnes un peu, eh ben, après, il prend plus, il prend plus, il prend plus. Et après, voilà. Après, c'est une histoire infinie. Après, on pourra le faire à 100 points et ça continuera et ça continuera.
Je pense qu'il n'y a personne qui peut nous sauver de ça. C'est à nous de dire nous sommes ici, nous sommes européens aussi, parce qu'il faut le dire, on n'est pas des étrangères. Je veux dire qu'on a la nationalité espagnole, mais on n'est pas... L'Espagne, ils nous traite comme hijastros, pas comme des vrais fils, toi. Et c'est ça que la France voit aussi. Ce ne sont pas des vrais... espagnol. Alors, on peut faire avec eux ce qu'on peut. Alors, je me suis dit, il faut que nous, on se réveille, quoi. On dit, ça suffit, ça arrête là.
Travailleurs détachés, les dessous d'une exploitation. Un documentaire d'Hélène Servel et Tiphaine Hermelin. Co-réalisation, Vincent Deck. Musique, Alexandre Larcier. Un grand merci à toutes les personnes qui assurent une veille sans relâche sur le territoire. Sans elles, cette enquête n'aurait pas pu exister.
Écran sonore.
Voilà, vous venez d'écouter Omerta sur Serre, le deuxième volet de l'enquête radiophonique de Hélène Servel et Tiphaine Hermelin, travailleurs détachés des dessous d'une exploitation. On remercie Blast Info d'autoriser la diffusion libre de ce documentaire sur les radios associatives. On remercie surtout les autrices pour leur travail tenace, sur la durée et de qualité, avec un petit coucou spécial pour Tiphaine, hein, qui est aussi une ancienne de Radio Galère. Vous pouvez réécouter ce documentaire et surtout le partager en allant sur blast-info.fr. Et aussi, si vous voulez juste le réécouter sur les ondes de Radio Galère, il sera rediffusé lundi prochain à 13h. On va faire une pause musicale, voilà, une vraie pause. Et on se retrouve ensuite pour écouter l'épisode 20 de Chronique Amère, rencontre avec des activistes d'Alarme Faune Sahara. Parce que dans Libre Débat, on diffuse régulièrement cette émission fabriquée par les camarades du réseau Alarme Faune. Et aussi parce qu'il y a un lien vraiment direct entre les luttes ici pour de meilleures conditions de travail des ouvriers agricoles détachés et les luttes là-bas, contre l'externalisation des frontières de l'Union européenne. Parce que cette politique de fermeture des frontières, elle est meurtrière, mais aussi elle favorise des conditions de travail et de vie désastreuses pour les travailleurs étrangers qui sont arrivés à passer ces frontières. Et tout ça, c'est quand même aussi pour une politique globale pour faire baisser le prix du travail au profit de grandes entreprises capitalistes. Alors le réseau Alarme Faune, il permet de visibiliser qu'est-ce qui se passe aux frontières concrètement, et aussi de faire du lien entre les personnes qui luttent des deux côtés de la Méditerranée.
Thank you. Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
Hello, my friend. This is Alarm phone.
How are you, my friend?
I hear
How
you.
Many
can you hear me?
Hello, my friend.
Okay, can you give me your GPS position?
Can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone.
Freedom, I don't need them. Where's your freedom?
Can you hear me?
Are you at sea?
Okay, I call you back.
What kind of boat are you on?
Around you?
Can you give me
How
your
many
GPS
are you
position?
On the boat?
I hear you.
Can you hear me? As you can and stay strong.
Okay, I call you back.
I will call
Maybe
you back.
Try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2021, 1977 personnes sont mortes en traversant.
165 personnes par mois.
41 personnes par
semaine. Près de 6 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique amère, une émission mensuelle contre les politiques de frontières européennes, et toujours depuis l'alarmphone. Ce mois-ci, dans Chronique amère, on avait envie de continuer à parler des conséquences de ce que fait l'Europe en matière de frontières, pas seulement en Méditerranée, et pas seulement sur les lieux de départ des traversées de la mer, mais bien plus au sud, dans le désert du Sahara et les pays que ce désert traverse. La mer Méditerranée est bien souvent une petite partie du voyage de personnes qui, avant d'embarquer, ont traversé bien des pays, ont marché des milliers de kilomètres, ont pris beaucoup de transports différents, ont survécu à tout un tas d'épreuves, ont rencontré des centaines de personnes, en ont perdu certaines et en ont retrouvé d'autres. Nous savons que ces routes sont souvent très longues et très dangereuses. Nous savons qu'elles sont rendues de plus en plus dangereuses à cause de l'Europe et de ses accords avec certains pays d'Afrique, à cause de l'Europe et du déploiement de ses forces de police en Afrique, à cause de l'Europe et de sa politique d'externalisation des frontières qui criminalise les déplacements sur les territoires africains. Sur cette frontière, comme sur beaucoup d'autres, des camarades luttent, se soutiennent, construisent des solidarités. C'est le cas de Diori Traoré, Pierre Youssa et Azizou Chehou, trois activistes engagés dans tout un tas de collectifs et d'organisations. Diori est membre de l'ADEME, Association pour la défense des émigrés maliens. Pierre est président du groupe de recherche et d'action sur l'immigration. Azizou est fondateur de l'association Jeunesse nigérienne au service du développement durable. Et elles sont aussi toutes les trois membres du réseau Afrique-Europe Interact et d'Alarmphone Sahara, un projet sœur d'Alarmphone Méditerranée. On a eu envie de discuter avec Pierre, Aziz et Diori de ces routes qui passent par le désert et de la responsabilité des États européens dans la région. Bonne écoute.
Alarmphone Sahara est au Mali, il est au Niger, dans la région de Agadez. Le bureau se trouve là-bas. Les lanceurs d'alerte sont à Assamaka et à Bilma. Parce qu'on a choisi Agadez, parce que Agadez est la ville principale de transit de beaucoup, beaucoup de migrants.
Alors, comment on fait ? Donc ça, c'est la carte du Sahel et du Sahara.
Oui, on n'a pas d'échelle sur cette carte. Du coup,
Mais du coup, c'est difficile de se rendre compte.
Non, tu demandes à Google un itinéraire à Agadez Tripoli.
Ah oui, bah, je fais ça. On va voir. 2690 km.
Sachant que là, 2690 km, c'est la route la plus directe.
Oui, c'est sans compter les contrôles.
Et en fait, ça, c'est bordé, comme si c'était un pays, mais c'est pas...
Le Niger ?
Ah, ça, c'est Niger, ok.
Ça, c'est le Niger, ouais, qui est un grand pays.
Mm.
Et oui, le Sahel, c'est vraiment cette bande qui délimite au nord le Sahara, le désert, et au sud, une partie plus humide.
Le Sahel, il traverse donc Mali, Niger, Tchad. Ça, c'est tout.
Qu'est-ce qu'il y a
Ah oui, à l'est du Tchad, c'est le Soudan.
Mm.
Du coup, c'est vraiment ça traverse l'Afrique.
Ouais, ouais.
D'ouest en est, du Sénégal jusqu'au Soudan.
Et on voit là dessiner ses frontières, notamment entre l'Algérie, le Niger, la Libye et le Tchad, qui sont vraiment en plein désert.
Mm. Je me demande si elle est matérialisée.
Il y a des endroits où il y a une vraie frontière. Je veux dire physique, en sens où il y a effectivement un mur de sable.
Okay.
Qui a été construit
à certains endroits.
Un mur de sable qui est complètement visible depuis en haut, depuis le ciel, et qui empêche les gens de le franchir à cet endroit-là. Et du coup, en fait, il n'est pas continu sur toutes les frontières tout le long, mais dans le désert comme ailleurs, bah, tu ne peux pas marcher tout droit. Il y a des endroits où les gens sont obligés de faire des détours pour contourner ce mur.
Et c'est assez visible que pour les personnes qui viennent plus du sud, d'Afrique centrale par exemple, quand tu remontes, le Niger est très central en termes de zone pivot. Que tu veuilles aller en Afrique du Nord occidentale vers le Maroc ou que tu veuilles aller vers la Libye.
Sur l'état du Niger, parce que c'est un pays non seulement de départ, beaucoup de zones nigériennes sont des zones de départ de migration. C'est aussi un pays de plus en plus de destination à cause de sa richesse, surtout richesse souterraine, l'uranium, l'or, le ciment et beaucoup d'autres. Et c'est aussi un endroit riche en termes d'environnement. Alors, c'est de plus en plus devenu un pays de destination, mais surtout un pays de transit par lequel presque tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest passent par le Niger pour se diriger vers le pays du Maghreb. J'insiste bien sur le pays du Maghreb, parce que l'intention de beaucoup, ce n'est pas pour aller en Europe, en tout cas en son temps.
Et les villes qu'on voit là sur la carte, donc au Niger, il y a Niamey, qui est la capitale. Il y a Agadez, qui est vraiment, je crois, traditionnellement une ville de transit très importante pour les gens qui voyagent dans le désert.
Tu sais pourquoi ?
Agadez, c'est le milieu du Niger. De sa frontière sud-ouest, la frontière sud-ouest du Niger, pour aller vers sa frontière nord-est, Agadez est au milieu. Vous allez parcourir plus de 1000 km pour arriver à Agadez. Et d'Agadez, pour aller à la frontière nord-ouest aussi, il faut parcourir plus de 1000 km. Et c'est là où les mesures les plus draconiennes sont appliquées. Et ce n'est pas un fait de hasard. De tout temps, Agadez a été un endroit, un lieu de convergence des populations venant du nord, comme je disais tantôt, et celles venant du sud. D'où d'ailleurs le nom d'Agadez. En langue nationale, Tagadez signifie endroit qui accueille les visiteurs. D'abord, notre association ADEM, l'Association pour la défense des émigrés maliens, a adhéré au réseau Afrique-Europe Interact, qui est un réseau transnational composé de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Donc, en 2017, j'ai participé à une rencontre de Alamfon à Rabat. Donc, c'était ma première rencontre avec Alamfon. Donc, du coup, ça nous a donné une idée. J'ai amené les documents de Alamfon tels que la carte, là où se trouvent les numéros. Donc, comme Adem fait une émission radio chaque samedi, donc j'ai parlé de Alamfon Méditerranée, comment se passe le sauvetage sur la mer. Ça a beaucoup plu aux auditeurs, donc ils ont appelé quand on a laissé le micro. Alamfon Méditerranée, c'est bon, mais il est bon aussi de créer Alamfon Sahara. Et c'est de là, à la deuxième rencontre de AP, que nous avons parlé de la création de Alamfon Sahara.
Alamfon Sahara, d'abord, a comme devise droit de partir, droit de rester. Nous ne sommes pas pour la restriction des mouvements. Ça, c'est un. Et nous sommes fixés pour atteindre, pour faire valoir ce slogan, nous sommes fixés trois objectifs qui sont sensibiliser, documenter, secourir. Sensibiliser, c'est pour vraiment éveiller les candidates et les candidats à la migration sur les risques qui entourent la traversée du Sahara.
On leur dit faire attention aux passeurs. Si les migrants ne sont pas tombés sur un bon passeur, ils peuvent prendre les migrants et aller les déposer au milieu du Sahara pour dire qu'ils sont déjà arrivés, alors que ce n'est pas vrai. Parce que le désert est très très vaste et immense. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Donc s'il y a même une lumière à plus de 50 km, on peut apercevoir la lumière. Donc, s'il est de mauvaise foi, il peut laisser les migrants là-bas pour dire que voilà, vous êtes déjà arrivés, voici la lumière en Algérie, alors que ce n'est pas vrai. Donc, il y a beaucoup de migrants qui subissent ces maltraitances dans le désert. Donc, il y en a qui se perdent, il y en a qui meurent de soif, de faim. La traversée du désert, ça peut durer, c'est pas, ça ne vaut pas une semaine, mais il peut faire beaucoup de jours là-dessus. Parce que c'est vaste, il faut choisir les routes qui sont moins courtes. Et la méconnaissance du désert fait qu'il y a de ces migrants qui se perdent parce que le désert est très vaste. Et avec la présence du sable, si le vent se soulève, il peut faire disparaître la route. Donc il faut se munir au moins d'un boussole pour connaître le nord, le sud, ainsi de suite, quoi. Et ce menhir d'un turaya. Un turaya, c'est un téléphone satellitaire dont on peut même appeler, même s'il n'y a pas de réseau. Il faut que le chauffeur a un turaya, il faut qu'il ait suffisamment d'eau dans son véhicule, il faut que son véhicule soit en bon état et prenne la bonne route avec eux. Voilà, on se dit il faut se munir d'un peu de nourriture, d'un peu de médicaments, et un peu d'eau aussi en cas de problème dans le désert. Voilà.
Au-delà de la sensibilisation, nous avons des personnes, une fois informées, qui décident de se confier à nous à travers des informations de leur vécu, de leur trajet migratoire ou des informations dont nous avons besoin pour mieux agir sur le terrain. Et avec leur accord, nous essayons de documenter ces informations et avec leur accord, nous le publions sur nos sites web. Et il y a une autre activité très difficile que nous faisons, c'est le secours ou l'assistance. Nous avons mis à la disposition et des conducteurs de véhicules et des passagers qui traversent le désert en direction du nord. nous avons mis à leur disposition notre ligne verte. Tant qu'on est sur le territoire nigérien et qu'il y a la possibilité d'avoir les réseaux, on peut nous contacter sous forme d'appel de détresse. Dès que nous arrivons à être en contact avec ces personnes, nous essayons de leur poser les questions qui peuvent nous orienter plus ou moins de leur position. S'ils ont un appareil Touareg, ce qui est difficile à transporter, ils peuvent nous donner leur position géographique à travers des coordonnées GPS.
On a nommé des lanceurs d'alerte dans certains villages.
Et alors, les lanceurs d'alerte avec lesquels nous travaillons et qui nous donnent des informations en temps réel sont non seulement dans la ville d'Agadez, mais aussi à Arlit, à Assamaka et dans le département du Kawar, communément appelé Bilma. Donc, ils sont situés sur les routes migratoires.
Donc, nos lanceurs d'alerte sont là. Ils sillonnent le désert. Donc, s'ils aperçoivent ou bien ils voient des migrants en détresse qui sont soif, qui ont faim, il y en a qui sont malades. Donc, nos lanceurs d'alerte sont là. Ils ont un tricycle. Je ne sais pas si tu connais le tricycle. Donc, ils prennent les migrants avec ce tricycle pour les amener à Assamaka pour leur donner les premiers soins, leur donner à manger, à boire. Voilà, donc ils peuvent rester là-bas pendant quelques temps pour se reposer et puis continuer leur route s'ils veulent.
Forte de sa tradition coloniale, la France est très présente dans la région. Elle veille sur ce qu'elle considère être son pré carré et sur ses intérêts. Comme cette mine à Arlit, au nord du Niger, qui fournit une grande partie de l'uranium nécessaire à la production de l'électricité française. Et si l'armée française s'est depuis peu retirée du Mali, elle est encore bien présente au Niger et au Tchad. Rémi Carayol, journaliste à Afrique 21, nous parle du rôle de la France et de l'Union européenne dans la fermeture des frontières sahéliennes, à travers la mission ECAP Sahel.
Alors ECAP Sahel-Niger, c'est une mission de l'Union européenne, une mission civile, pas une mission militaire, mais qui est concentrée sur les questions d'ordre sécuritaire, puisque c'est une mission en fait de coopération et de formation des forces de sécurité intérieure du Niger, donc la police, la gendarmerie, la police aux frontières. Ce n'est pas des représentants des armées européennes, mais c'est des représentants souvent des polices européennes avec donc la police, la gendarmerie, les forces de sécurité intérieure. C'est une mission qui a été créée en 2012 et dont l'objectif à l'origine est donc d'accompagner les forces de sécurité dans leur montée en puissance, comme on dit souvent, dans leur formation, dans leur équipement et dans leur fonctionnement. Mais assez rapidement, en fait, à partir de 2015-2016, ECAP a joué un autre rôle qui a été celui de mettre l'accent sur la question des migrations, sur la gestion des flux migratoires et en réalité sur la fermeture des frontières, en fait, et sur le contrôle des flux des migrants qui passent par le Niger. Et donc, une antenne a été créée, notamment à Agadez. Et donc, ECAP a commencé à financer des programmes donc, pour contrôler les flux migratoires et a même mené des opérations, on va dire, de contrôle dans le désert au-dessus d'Agadez. Toujours dans le cadre soi-disant de la formation. Voilà. Et donc, ECAP joue un rôle quand même important dans ce processus-là qui est issu du sommet de la Valette de 2015 où l'Union européenne avait décidé de mettre l'accent sur les flux migratoires en provenance du continent africain et notamment de sous-traiter la question de la fermeture des frontières, non plus aux États du Maghreb, notamment à la Libye, au Maroc, mais aux États de l'Afrique subsaharienne. Et le Niger est l'un des principaux États qui coopère en la matière très étroitement avec l'Union européenne. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Et Asamaka, je sais pas si vous voyez, c'est là où se cristallise un peu toutes les luttes récentes, notamment d'Alain Ponsahara. Parce qu'il y a des gros campements là-bas de personnes qui sont en attente de transfert, retour vers leur pays d'origine.
Ok.
Des personnes qui ont été expulsées d'autres endroits et qui se retrouvent à Asamaka.
Notamment les personnes qui sont expulsées d'Algérie.
Ok.
Les personnes qui sont expulsées d'Algérie, en fait, elles sont raflées. Après, elles sont amenées vraiment à cette frontière-là.
Entre l'Algérie et le Niger, au nord du Niger, quoi.
Ouais, qu'on appelle le point zéro. Et en fait, elles sont laissées là, et du coup, elles doivent finir à pied pour arriver jusqu'à Asamaka, qui est le premier endroit, première ville où il y a un peu d'infrastructure d'accueil.
Alors, la politique de fermeture des frontières depuis plusieurs décennies aujourd'hui s'amplifie de jour en jour. Et l'Algérie, qui est reconnue comme l'un des pays du Maghreb qui, je dirais, travaille pour Frontex, n'aime pas ces personnes-là. Ces personnes, je les dénomme les migrants, qui juste parfois veulent transiter. Et du coup, l'Europe n'accepte pas ça, parce que pour l'Europe, ce sont des personnes qui transiteront pour prendre la Méditerranée. Et naturellement, l'Algérie, qui reçoit des fonds énormes, des sommes énormes, a cette obligation de rendre compte. Et c'est pour ça que l'Algérie a mis les gros moyens financés par l'Union européenne, Frontex et toutes les organisations contre la liberté de circulation. Alors l'Algérie a créé un système depuis Tamanrasset, passant par Bosch-Baji-Mokhtar, pour mettre fin au transit et au passage et à l'entrée sur le sol algérien. Alors ces frontières fermées créent de plus en plus de cas de disparition dans le désert. Il y a 20 ans, les routes normales de migration étaient empruntées par les migrants. Mais aujourd'hui, les nouvelles routes se sont créées, des nouvelles routes plus dangereuses, plus meurtrières, et des centaines de milliers de migrants aujourd'hui sont portés disparus dans le vaste désert du Niger et du nord du Mali. Nous voulons lutter pour remettre en place la liberté de circulation et que le Niger, par exemple, et l'Algérie remettent en cause ce qu'ils font aujourd'hui aux migrants et adoptent cet article des droits humains qui dit que tout homme est libre d'aller où il veut. Et nous voulons que tout le monde entier sache que la migration n'est pas un crime, que la migration est quelque chose de normal. Et on lance aussi un appel à l'Union européenne de temps en temps, expulse les migrants au niveau de l'Afrique pour leur dire stop. Parce que des migrants qui ont déjà risqué leur vie dans le Sahara pour une première fois, risqué une deuxième fois pour traverser la Méditerranée et qui, une fois arrivés en Europe, se voient expulsés, pour nous, nous disons ça, c'est une double pouvoir, triple criminalisation de la migration. Et que l'Europe accepte que si aujourd'hui les richesses africaines sont pillées, si aujourd'hui les lois africaines sont bafouées pour mettre au pouvoir des personnes qui vont leur rendre service, que cette même Europe accepte après d'accueillir les migrants sur leur sol. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que qui crée la guerre accueillera des réfugiés. Et il faut qu'on assume à un moment donné nos responsabilités.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On avait envie de finir cette émission par des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour toutes celles et ceux qui luttent au quotidien pour la liberté de circulation aux frontières de l'Europe, dans le Sahel et partout ailleurs. Des pensées de solidarité pour toutes les personnes qui subissent la violence des politiques européennes alors même qu'elles sont à des milliers de kilomètres de l'Europe. des pensées de solidarité pour toutes les personnes noires qui subissent des attaques racistes quotidiennes en Tunisie. Ces attaques sont de plus en plus nombreuses et violentes depuis quelques semaines. Elles font suite au discours complotiste du président Kais Saied sur un soi-disant grand remplacement de la population tunisienne par des migrants subsahariens. Ce type de discours est largement inspiré par des théories de l'extrême droite française. Ces politiques racistes sont aussi une des conséquences de la pression de l'Union européenne sur les pays du sud de la Méditerranée pour empêcher les personnes exilées de partir vers l'Europe. Et on a la rage d'être encore et toujours témoin du fait que des décisions politiques au nord de la Méditerranée ont des impacts d'une violence hallucinante sur des millions de personnes au sud. Et on a envie de continuer.
I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
I got nothing new to Voilà, vous venez d'écouter l'épisode 20 de Chronique Amère. Vous pourrez réécouter cette émission et la partager sur le site de Jet FM. On va retrouver les camarades d'Alarm Faune le mois prochain dans Libre Débat. Je vous propose de finir l'émission en musique. Restez sur Radio Galère. À 18h, ça sera le tour de l'émission Une heure en Palestine, comme aussi tous les mercredis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera en direct du studio de Radio Galère, pour une fois, avec des invités en chair et en os. C'est les personnes du réseau Technopolis qui présenteront la deuxième édition du festival Technopolis du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre. On sera avec elles et eux pourront parler la semaine prochaine sur le plateau de Libre Débat. Et pour l'agenda, d'ici là, dimanche 24 septembre à 16h à la Dar Lamifa, donc en haut de la rue d'Aubagne, il y a aussi une écoute d'extraits de l'émission du Gang des Gazières sur islamophobie et sexisme à Marseille en milieu scolaire, une émission qu'on a rediffusée là au début de l'année dans Libre Débat, avec une discussion pour voir comment s'organiser pour lutter contre l'interdiction de l'abaya et contre l'islamophobie grandissante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne semaine.
Tu feras la mouée, mi rodato donne sans waro. Mon souffle sous-clotant longtemps, anachronis l'époque. Kamayong en foutant. Tu feras la mouée, mon souffle sous-clotant longtemps. Kamayong en foutant. Tu feras la mouée, mon souffle sous-clotant longtemps. Kamayong en foutant. Un malol les si local est créé dans mon lobby. Mais moi, mon zézé, tous les citants tellement faux. Tant vos oreilles battent dans mon corps. Parc en parc loco, comment que ça ou ça nous s'amore. Parc en parc loco. Parc en parc loco, comment que ça ou ça nous s'amore. Parc en parc loco. Tu feras la mouée, mon souffle sous-clotant longtemps, Kamayong en foutant. Tu feras la mouée, mon souffle sous-clotant longtemps, Kamayong en foutant. Parc en parc loco, comment que ça ou ça nous s'amore. Parc en parc loco. Parc en parc loco. Comment que ça ou ça nous s'amore. Parc en parc loco. Fais pas ici, si fais pas là-bas, tirez dans le coco, mich t'en pique à pas. Parc en parc loco, comment que ça ou ça nous s'amore.
Par camp, par cloco, comme un cocha ou ça nous chameau. Il est moins même, et puis ça l'aurait. Mon vieux coca qui est. Moi, la passe comme un brison poilu. Dic, dic, encore. Terre, moi, j'ai saint l'audé sous nous, sous pas. Pour Jacques quand couche un mot, fait dire l'effet. Oui, sans pirier, sourire là et vol vol à moi, Miliane dans l'air, où qu'il est, mon limite. Oh, coule charroyé à fleur d'eau. Oh, coule charroyé à fleur d'eau. Oh, coule charroyé.
Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4.